Philippe Nanzer.
La nouvelle de ce dimanche est baloise puisque le FC Bâle a remporté la Coupe de Suisse de football ce dimanche pour la 14e fois de son histoire au stade du Wangdorf à Berne. Bienne n'a certes pas démérité, mais il a été battu quand même sur le score de 4-1. Du coup, le doublé du FC Bâle, c'est-à-dire championnat et coupe, ouvre au Lausanne Sport les portes de la Conference League avec une entrée en lice dans le deuxième tour qualificatif. Ce sera le 24 juillet prochain. L'armée israélienne nie avoir tiré ce dimanche matin sur des civils à proximité d'un centre d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. La défense civile palestinienne, elle, affirme le contraire et fait état de plus de 30 morts ainsi que plusieurs blessés à la suite de ces tirs israéliens. Le Hamas, de son côté, s'est dit prêt ce dimanche soir à entamer immédiatement, ce sont ses termes, un nouveau round de négociations indirectes en vue d'une trêve à Gaza. Gaza, où l'espoir d'un cessez-le-feu se heurte toujours à l'absence d'un accord entre Israël et le mouvement islamiste palestinien sur une proposition américaine. Pour le Hamas, il s'agit dans un premier temps de parvenir à un accord sur les points de discorde. Ce même jour, les médiateurs qatariens et égyptiens ont annoncé vouloir intensifier leurs efforts en faveur d'une trêve dans ce territoire. À l'issue du deuxième tour de la présidentielle en Pologne, les deux candidats ont d'ores et déjà revendiqué leur victoire ce dimanche soir. Il faut dire que les sondages effectués à la sortie des urnes ne donnent qu'un écart de 0,6% entre ces deux candidats. Et à la veille de la reprise des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine ce lundi à Istanbul, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, dit s'être entretenu au téléphone avec son homologue américain Marco Rubio aujourd'hui. Selon les médias russes, les deux hommes ont échangé leur point de vue sur diverses initiatives visant au règlement politique de la crise russo-ukrainienne. Et puis sur le terrain des hostilités, l'Ukraine a mené ce dimanche une vaste attaque coordonnée de drones contre des aérodromes militaires en Russie. Selon Kiev, une quarantaine de bombardiers stratégiques, c'est-à-dire les mêmes que Moscou utilise pour bombarder les villes ukrainiennes, eh bien une quarantaine de ces bombardiers ont été touchés, voire détruits. Des drones qui ont frappé en profondeur jusqu'à 4300 km de la frontière russo-ukrainienne. Retour en Suisse avec les 47e journées littéraires de Soleure qui se sont achevées ce dimanche. Selon les organisateurs, la manifestation a enregistré 16 500 entrées pour les quelques 140 manifestations qu'elle proposait. Cyclisme, Simon Yates a remporté le 108e Tour d'Italie ce dimanche. Le Britannique a triomphé avec près de 4 minutes d'avance sur le deuxième, à savoir le Mexicain Isaac Del Toro. Cette 21e et dernière étape a été remportée au sprint par le Néerlandais Olav Kuij. La météo, eh bien, cette nuit sera nuageuse et parfois orageuse. Ce lundi, le ciel continuera d'être couvert, toujours avec des averses, et ce, dès la matinée, le thermomètre, lui, redescendra aux alentours de 20 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
C'est l'un des opéras les plus joués au monde. L'histoire tragique d'un amour impossible entre une courtisane et un jeune bourgeois. Du 14 au 27 juin, la Traviata de Giuseppe Verdi se joue au Grand Théâtre de Genève. Découvrez cette partition iconique, mise en scène par Karin Henkel, le samedi 28 juin sur RTS Espace 2 et sur l'application Play RTS. Vos plus beaux moments de la journée, en rediffusion sur RTS Première.
Dis pourquoi ? L'émission qui répond aux grandes questions de l'humanité en toute modestie. Lucas Torrent.
Et nous voici de retour pour une nouvelle émission de Dis pourquoi. Bonjour à toutes et à tous. De 14 à 15 heures du lundi au vendredi, on va aborder un nouveau sujet qu'on ne laissera pas partir donc avant vendredi. Quel sujet? Alors, vous pouvez essayer de le deviner au 078 206 73 32. Comment deviner un sujet à partir de nulle part? Eh bien, grâce à une modeste fiction que nous avons écrite qui est en lien avec la thématique de la semaine. Comme d'habitude, Céline Auclin a été inspirée par cette thématique. Elle nous le dira dans une vingtaine de minutes. Et puis, dans une quarantaine de minutes, nous avons une modeste chronique en lien avec cette thématique. Et puis si on a le temps, en fin d'heure, nous vous lirons un texte libre de droit, toujours en lien avec notre thématique. Mais alors, quelle est-elle, cette thématique mystère? Vous aimez le mystère? Si, si, si. Tout le monde aime le mystère, surtout quand il y a la réponse. La réponse, elle vient dans 5 minutes. Et si vous n'êtes pas patient, patiente, vous pouvez essayer de deviner au 078 206 73 32 grâce à ceci. Raoul Roger est un frais retraité au mollet rougeau. Il porte généralement un short en jeans usé, il a des petites jambes en allumettes, un peu de ventre, mais pas trop, et il adore mettre ses chemises dans son pantalon. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse, Raoul Roger vit un perpétuel tourment. Car il est tiraillé d'un côté entre une envie impérieuse d'être seul, absolument seul et tranquille, et en même temps, il a l'envie irrépressible d'être en société, avec plein de monde. Résultat, il passe la plus grande partie de ses journées sur une chaise de camping pliable, à côté de son cabanon, sur la gouille du racasson, à ruminer. Mais pas cette fois. Ah non, pas cette fois, parce que cette fois, Raoul Roger a un plan. Ça fait 2 ans qu'il rumine, il a un plan. La retraite, c'est aussi le moment de faire des choses, il s'est dit. Et même de refaire des choses qu'on avait déjà faites. Et Raoul Roger va renouer, c'est décidé, avec une passion de jeunesse. Ah, sa jeunesse, quand il était roux, quand il était maigre, quand ses grandes dents et ses cheveux bouclés le caractérisaient, quand il était niais, et surtout quand il était sportif. Oui, tout à fait, Raoul Roger était très sportif, et c'est ça sa décision, il va refaire du sport. Et même, il va refaire son sport, le tennis. Ben oui, c'est ça son sport, le tennis. Et dans le fond, ça colle tout à fait avec ses anxiétés du jour. Car quelle activité est plus adéquate que le tennis quand on veut d'un côté être tout seul, en fond de cours, on rumine le score, prêt à recevoir le service. Et d'un autre côté, une activité quand on veut être en société. On lance des saluts au vestiaire, on ose une bière d'après-match à la terrasse du club, à la fois solitaire sur le court et bête de société en dehors. C'est décidé. Raoul Roger a trouvé, il se remet au tennis, ça va régler tous ses problèmes. Seule léger petite ombre au tableau, vu ses genoux, il a déjà du mal à se lever de sa chaise pliable, mais dès que c'est fait, il part jouer. So what if she likes to dress like a fairy tale princess? Daydreaming she's a star next, and she glitters so 4 a.m. She was a moonflower, coffee addict, painted pink walls in her attic. Everything was so romantic then. She was a moonflower, telepathic, told herself that she was magic, 'cause she never grew out of it. I'm a moonflower, so dramatic, loving girls so much it's tragic. Everything is so romantic, yeah, 'cause I'm a moonflower, call it classic. My best friend takes me to Paris, staying up again, in our headphones we spin. So what if I don't like men? It's my heart, it's my mess. I'm not swinging for the picket fence, 'cause I'm loving that cherry kiss. I'm a moonflower, maladaptive, mirror dancing, soft and manic. Look at me, I'm so romantic now, 'cause I'm a moonflower, kinda graphic, but it's always cinematic, till it all comes crashing down. I'm a moonflower, so dramatic, loving girls so much it's tragic. Everything is so romantic, yeah, 'cause I'm a moonflower, call it classic. My best friend takes me to Paris, staying up again, in our headphones we spin. Can't wait to break her heart to know what it feels like, and she wants everyone to stare at her green eyes. Always lasted for a taste of the limelight, 'cause she never grew out of it. Miloun sur RTS Première, elle sera en concert le 21 juin à Zurich, elle est zurichoise et on vient d'entendre Moonflower. Vous écoutez Dis Pourquoi, nous sommes ensemble jusqu'à 15h et jusqu'à vendredi et on vous a demandé de deviner le sujet de la semaine au 078 206 73 32 et puis en naïvement en prenant notre téléphone de l'émission pour regarder les messages, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un bug dans WhatsApp et que tous vos messages envoyés depuis le début de cette émission sont marqués comme non lus. Elles sont tous arrivées à la même heure. Et donc, on va avoir un tout petit peu de peine pour retrouver vos messages du jour. Mais néanmoins, on y arrive, car nous sommes des professionnels. Alors, je m'excuse si j'en rate certains. Ça va se remettre en place gentiment. Par exemple, cette auditrice, auditeur, nous dit « Est-ce que c'est les genoux, la thématique de la semaine ?» Non, c'est pas ça. « Est-ce que c'est le sport, émoticône effroi ?» Non, ce ne sera pas le sport. Non, vous avez deviné. Je crois qu'il y a un auditeur qui nous dit « Tennis roux ». Ça va être sur Marc Rosset cette semaine. Eh bien, ça va être donc sur le tennis, oui. Et puis, c'est intéressant parce qu'on a un auditeur qui dit « Oh non, j'espère pas le tennis ». Et puis, un autre auditeur qui nous dit « Le tennis, trop bien !» Émoticône étoile à la place des yeux. Alors, ce que vous allez voir, c'est que vous aimiez le tennis ou non. Cette semaine est faite pour vous. On est avec Muriel Magellan. Elle est écrivaine, elle a écrit plein de choses. Elle est scénariste, elle est réalisatrice. Elle a fait par exemple le film La Page Blanche. Mais là, on la reçoit pour un livre qu'elle a écrit sur le tennis, une déclaration d'amour au tennis. On vous en reparle dans quelques secondes. Et pourquoi c'est pour tout le monde? Eh bien, parce qu'avec elle, on va se rendre compte que, qu'on aime ou pas le tennis, on connaît des noms de tenniswoman, de tennisman célèbres. Pourquoi est-ce qu'ils sont célèbres? Pourquoi est-ce que ce sport est connu? Qu'est-ce que ce sport a de particulier? Pourquoi est-ce que même si on suit pas Roland Garros, on sait qu'il y a Roland Garros, eh bien on va se poser toutes ces questions. Le tennis au cinéma, le tennis en littérature, est-ce qu'il y a des films célèbres, est-ce que c'est bien? Voilà, plein de choses à se dire. Et au 078 206 73 32 par message texte uniquement, WhatsApp, SMS, la question classique du lundi. Vous savez, maintenant on pose des questions classiques le lundi, des questions simples. On commence la semaine en étant simple, parce que c'est lundi, on reste simple. Vous faites du tennis? Voilà. Est-ce que c'est bien? Vous êtes nul? Voilà, c'est la question simple du jour. Ou pas du tout, vous avez jamais essayé. Vous voulez l'anecdote personnelle de l'animateur de cette émission? Moi, quand j'avais 10 ans, j'ai fait une semaine de tennis avec un cousin. À la fin de la semaine, l'entraîneur, il a dit « Alors Lucas, pour toi, il faudra que ça reste un passe-temps ». Et c'est la dernière fois que j'ai fait du tennis. Voilà, c'était mon anecdote personnelle. Dites-nous ce genre de choses au 078 206 73 32. C'est une émission du lundi, ce qui veut dire qu'en tout cas ici, à 16h, vous n'avez pas entendu cela.
Pour remplacer une ampoule, vous aurez besoin d'une ampoule au culot identique à celle que vous changez, éventuellement d'un escabeau. Cette installation nécessite deux étapes que nous allons vous détailler. Étape 1, dévisser l'ampoule, c'est-à-dire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Étape 2, remplacer l'ampoule, visser dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous savez maintenant comment remplacer une ampoule.
Muriel Magellan, vous êtes écrivaine, vous êtes réalisatrice, vous êtes scénariste. On vous reçoit pour un livre et aussi pour une passion, je crois que je peux le dire. Ce livre, c'est Éloge du tennis, édition Rivage, au pluriel. On va parler de ce sport toute cette semaine. On va essayer d'aborder le plus d'aspects possibles. Aujourd'hui, vous allez un peu nous redire ce qu'est le tennis et son histoire rapidement. Mais si je dis que vous êtes une passionnée de tennis, je vous trahis, c'est pas fidèle à la réalité ou c'est juste?
C'est extrêmement juste. Je pense que le mot passion va bien. On pourrait presque dire par moment addict même, puisque je peux passer des heures non seulement devant les matchs, mais devant les articles de presse, les commentaires des articles de presse. Donc oui, on peut dire que je suis mordue.
Donc vous suivez le tennis, mais vous en faites aussi des compétitions amateurs, hein?
Voilà, exactement. J'ai appris le tennis enfant, comme beaucoup d'enfants, et j'ai arrêté la compétition pour les études, pour me lancer dans ma vie artistique, et je m'y suis remise à 40 ans, j'ai refait de la compétition. Quand j'étais enfant, j'étais arrivée jusqu'au classement 15-5, et adulte, en m'y remettant, peut-être avec un petit coup de maturité par là-dessus, je suis arrivée au classement 15-1, qui était mon meilleur classement. Et au début de l'éloge, au moment où j'entreprends l'écriture de l'éloge du tennis, je suis 15-3 et je me pose un petit défi parallèle à l'écriture qui est d'essayer de revenir à mon meilleur classement, donc 15 ans. Ça n'est pas si simple, mais le texte raconte aussi, parallèlement à toute la mythologie du tennis, raconte aussi mon petit défi.
Pour aujourd'hui, donc, on va planter le décor. On a fait des semaines, on dit pourquoi, sur des thèmes, on se dit que ça va être dur de décrire, comme la mélancolie ou comme la superstition. Tennis, c'est facile à définir comme mot, selon vous?
Ça vient du mot tenet. Je crois qu'on disait à l'époque tenesse, hein, ça vient du jeu de paume. C'était le mot qu'on employait pour engager au jeu de paume. Et quand le jeu de paume est arrivé en Angleterre, les Anglais ont gardé ce mot-là, sauf que ça a sonné autrement et ça a sonné tennis. Voilà pourquoi maintenant on joue au tennis.
On va parler avec vous de cette histoire du tennis. C'est vrai que ça part en France. Alors on sait que c'est les Anglais qui ont, entre guillemets, inventé le sport. Mais est-ce qu'on sait qui a inventé ce fameux jeu de paume? Mais rappelez-nous ce que c'était.
Alors, c'est une belle histoire, hein, l'histoire du tennis, je trouve. D'abord, le jeu de balle, il est très, très ancien. Platon déjà fait des références à la sphéristique. On appelle ça la sphéristique, c'est-à-dire jouer avec une sphère, jouer avec une balle. Et puis, arrive un jeu avec une balle, un fil tendu et la main, qui est donc le jeu de paume. Ça, on en a la trace à l'Antiquité tardive, c'est-à-dire 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Et puis ce jeu se répand. C'est un jeu qui est très populaire au départ, c'est-à-dire qu'on y joue sur les chemins, dans les campagnes, etc. Et puis ça rentre dans les villes de siècle après siècle, et à tel point que les cités s'organisent pour qu'on arrête de jouer à ce truc dans la rue, et donc font des terrains à l'intérieur. Et on va voir le jeu de courte pomme, qui est le jeu à l'intérieur, et le jeu de longue pomme, qui est à l'extérieur. Et toutes les classes sociales y jouent. Donc, il n'y a pas de distinction à ce moment-là entre classes sociales. C'est quand on commence à se dire qu'à la main, ça fait mal, donc on met un gant, et puis finalement, et si on essayait avec un bâton, et puis quelqu'un crée un objet étrange, c'est-à-dire qu'il met un ovale au bout de ce bâton et un cordage, et ça devient la raquette. Et là, ça va séparer le jeu populaire de la rue et le jeu aristocrate, parce que dès qu'il y a du matériel, on se distingue les uns des autres, parce qu'il faut du bon matériel. Ça, on le sait, hein, que ce soit au golf ou dans n'importe quel sport où il y a du matériel, ça crée des différences sociales.
Je te suivrai au bout du Congo. Une
premier titre du groupe Niagara, sorti en 1985 à la programmation musicale Stéphanie Jovanovic. Et puisqu'on dénonce les collègues, c'est Luana Biadici à la réalisation et à la technique de cette émission. Quelle émission dit pourquoi? Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Pourquoi le tennis toute cette semaine? Pourquoi est-ce que ce sport est si populaire? Pourquoi est-ce que ce sport est si médiatique? Pourquoi est-ce que les champions championnes de tennis sont si connus? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On est avec Muriel Magellan, écrivaine notamment, aussi scénariste, réalisatrice, autrice d'un livre sur le tennis, une sorte de déclaration d'amour et de réflexion sur le tennis, parce que vous aimiez le tennis ou pas, cette semaine devrait vous plaire, puisque autour du tennis gravite plein d'idées, plein de notions, aussi plein de films et de livres, ça on en parlera demain. La question simple du lundi fait un demi-bide, mais ce n'est pas grave, au 078 206 73 32, est-ce que vous jouez au tennis? Eh bien la réponse est non, en tout cas proportionnellement non. Par exemple cet auditeur nous dit le tennis bof, le badminton par contre à fond. Émoticône raquette de badminton, émoticône médaille, dites donc. Je n'ai jamais touché une balle de tennis, nous dit cette auditrice, sauf pour la mettre dans mon séchoir. Émoticône goutte de sueur, je ne me rappelle plus cette histoire de mettre une balle de tennis dans son séchoir. Pourquoi on fait ça? Pour que ça fasse un max de bruit quand son séchoir y tourne. C'est là où on met aussi un trousseau de clés et puis des pièces de 5 francs. Mais je regarde, continue cette auditrice, mais je regarde parfois un match et écouterai volontiers votre thème cette semaine. Ça c'est gentil, bel après-midi, émoticône au revoir de même. Et puis on a des gens qui n'aiment pas le tennis, comme cette auditeur auditrice. Non, jamais, heureusement, jamais fait de tennis, heureusement. Mon seul rêve sur le tennis, c'est que Roger se fasse finalement choper pour dopage et qu'un mythe s'effondre. Émoticône diable. Alors là, ça, c'est, on est vraiment dans dire ça en Suisse. Ouh là là, ça c'est risqué. Eh ben écoutez, puisque vous n'êtes pas très tennis, je vais changer la question. 078 206 73 32. C'est quoi votre sport de raquette à vous? Voilà, on élargit. 078 206 73 32. Ça permettra d'effacer si. Je suis sûr qu'il y a des facéties à trouver quand on dit c'est quoi votre sport de raquette à vous. Voilà, vos messages, ce sera jusqu'à 15h. En attendant, là tout de suite à 14h23, c'est Céline O'Clain, elle se pose beaucoup de questions, mais c'est pas grave, elle a aussi beaucoup de réponses.
Parce que.
Pourquoi les vêtements de sport, c'est quelque chose? Parce que ça le son numéro 1. Prenons pour exemple le ski. Imagine-t-on le pratiquer sans les habits appropriés? Veste, pantalon, gants, casque, chaussettes de ski, et j'en oublierais presque les sous-vêtements thermomachins. Donc on ne pratique le ski qu'en habits de ski, encore que. J'ai des souvenirs de potes dans les années 80, embarquant dans la VV Golf MK2 des grands-parents, avec aux pieds des souliers de ski à boucles, desquels dépassaient des jeans affublés ou pas de guêtres, et pour le reste une doudoune sur les épaules. La même qu'ils avaient tout l'hiver pour aller au cours. Et let's go, en haut des portes du soleil, en tenue quasi citadine. Ils dévalaient la pente comme des pirates, sans casque ni bonnet, une paire de gants ou de moufles parfois. Alors je ne dis pas qu'ils ne se les caillaient pas, mais peu importe, la liberté de s'évader en 1, 2, 3 mouvements était plus forte que d'attendre d'avoir la panoplie, l'équipement en entier pour y aller. Et puis je soupçonne même que certains et certaines d'entre nous se prêtaient les paires de lattes. Pour le reste, on faisait avec les moyens du bord, et donc les habits à bord. Pas le temps de minauder, pareil pour la course à pied. On faisait les 20 kilos et les marathons avant d'avoir des baskets à propulsion ou des chaussettes à contention. On avalait les kilomètres en vieux training usé ou short évasé. Les mêmes fringues que l'on utilisait pour aller faire quelques paniers dans le quartier. Pourquoi les vêtements de sport, c'est quelque chose? Parce que prenons le vélo. La fois où j'ai parcouru 80 km, mon entrejambe m'a remercié d'avoir enfilé le cycliste rembourré qu'on m'avait prêté. Même si plus petit, on passait des heures sur nos bécanes sans jamais se soucier des habits qu'on portait. Mais pourquoi? Pourquoi les vêtements de sport, c'est quelque chose? Parce que songez au tennis. Je me suis toujours demandé comment c'était possible qu'on puisse, pour un sport où il s'agit de rattraper et relancer une balle le plus vite possible et donc effectuer un nombre incalculable de bonds et d'accélérations dans des postures finales frisant parfois les acrobaties, comment était-ce pensable qu'on puisse exiger que les filles portent des jupettes quand les garçons, eux, ont droit aux shorts et passent leur temps à se le retirer de l'arrêt à la Nadal? On n'aurait pas mieux fait de leur imposer à eux aussi le port d'une mini-jupe? Je suis sûre que finalement, ça ne serait pas plus saugrenu que de voir les dames au même titre que les garçons courir et frapper la balle avec autour de la taille un pantalon raccourci jusqu'à mi-cuisse. Franchement, dans le genre et dans une catégorie peut-être plus hype encore, en équitation, hommes et femmes concourent dans la même catégorie et sont vêtus pareil. La madame ne monte pas à cheval en crinoline, alors pour éviter que votre short vous rentre dans le sif, sillon interfessier, messieurs la raquette, optez pour la jupette. Enfin, pourquoi les vêtements de sport, c'est quelque chose? Parce que si vous avez jamais fait d'escrime, vous ne pouvez pas comprendre.
Marbres et faïences, au pied d'une église, l'horrible silence des larmes et d'Ulysse. Soudain il commence, cet homme en costume, quelques pas de danse à titre posthume. La vie se rallume. Dans ses bras, il tient l'absence, son bel amour qu'on a ravi. Il tourne, il tourne et il danse, et c'est encore de la vie. Ayons parfois l'élégance de tournoyer sur les parvis. Alors lentement, d'autres l'accompagnent. Absente compagne, dans ses mouvements, tous deux se rejoignent. L'espace d'un instant, c'est la vie qui gagne. C'est la vie qui gagne. Il tourne, il tourne et il danse sur les pavés du parvis. Dans ses bras, il tient l'absence, son bel amour qu'on a ravi. Il tourne et il danse, et c'est encore de la vie, ayant parfois l'arrogance de tournoyer sur les parvis. Sur les pavés du parvis, dans ses bras, il tient l'absence, son bel amour qu'on a ravi. Il tourne et tourne et il danse, et c'est encore de la vie, ayant parfois l'arrogance de tournoyer sur les parvis. Il tourne et tourne et il danse, et c'est encore.
Huitième album pour Julien Clerc dont est extrait son, ça s'appelle L'Éparvis, mais en même temps c'est un morceau, donc je sais pas, dont est extrait, c'est pas très joli en plus à dire, ou son texte, enfin, il y a le morceau L'Éparvis sur le 28e album de Julien Clerc, et c'est Benjamin Biolay qui en signe les arrangements, puisque ça vous intéressait de savoir qui c'est qui a fait mis les violons dessus. Bah, c'était Benjamin Biolay. Vous écoutez Dis Pourquoi, nous sommes ensemble jusqu'à 15h, nous parlons tennis. Tennis avec Muriel Magellan, on la retrouve dans quelques secondes, ce sera notre fil rouge, notre experte toute cette semaine. Mais avant cela, cette question 078 206 73 32. Est-ce que vous avez joué au tennis? Sinon, quel est plutôt à vous votre sport de raquette? Et en disant quel est votre sport de raquette, j'étais là, mais il y a forcément du jeu de mots. Et puis, comme il y a toujours des auditeurs, auditrices qui bondissent à ce moment-là, on les a tous trouvés, je crois, les jeux de mots. Donc, mon sport de raquette, c'est la randonnée en raquette à neige. Premier jeu de mots. Pas vraiment un jeu de mots, mais c'est vraiment des raquettes qu'on se met sous les pieds. Il y a ça, mon sport de raquette, c'est détrousser les marmots dans la cour d'école. Voilà, le raquette, c'est pas mal. Et puis, il y en a en fait un troisième, grâce à cet auditeur, auditrice, les raquettes AOP. Voilà. Petit jeu de mots entre raquette et raquette. Ça fait plaisir. Et puis, il y a des gens qui répondent sérieusement, heureusement. Mon sport de raquette, c'est le ping-pong. Ça, j'adore. Et vous êtes nombreux, nombreuses à nous dire que vous aimez beaucoup le ping-pong. C'est vrai que le ping-pong, c'est sympa. Tout le monde sait plus ou moins jouer. Il y a une table. Hop, on peut jouer. Puis, il y a toujours ce moment où on joue contre quelqu'un qui sait vraiment jouer au ping-pong. On croit qu'on est assez fort. Et puis, tout d'un coup, on se fait absolument atomiser. Voilà, ça, c'est le ping-pong. On a posé la question de pourquoi mettre une balle de tennis dans le séchoir? Eh bien, parce que les balles de tennis aident à sécher les doudounes dans le séchoir à linge. Émoticône clin d'œil, émoticône tête à l'envers. J'ai fait plusieurs années de tennis de table. J'étais même champion de Belgique, d'après ma fille, quand elle était petite, alors que je ne suis jamais allé jouer en Belgique. Elle se reconnaîtra. C'est chou, ils sont chou, ces enfants. Et puis, on a un auditeur du côté des SMS qui nous dit « J'aime pas trop le tennis, mais Federer, il est bien, il a pas la grosse tête. » Voilà, ce sont vos messages, on les lit, bien sûr. Et puis, voilà, encore un autre. « Bonjour, je n'ai jamais joué au tennis, mais au tennis de table. » Beaucoup. On verra si on donne quelques minutes au tennis de table. Si vous aimez ça, on peut essayer de se demander. Parce que tous les sports de raquettes viennent du jeu de paume. Vous voyez ce jeu ancien, le tennis aussi. Muriel Magellan nous l'a dit. Est-ce que le ping-pong vient aussi du jeu de paume? Ça, on ne sait pas. Mais puisqu'on a Muriel Magellan qui a fait beaucoup de choses comme écrivain, mais aussi comme réalisatrice de films. Mais là, on la reçoit pour son livre Éloge du tennis. Elle nous a parlé donc du jeu de paume. Et ben, on lui demande c'était quoi alors exactement ce fameux jeu de paume.
Donc, le jeu de paume, c'est une raquette, finalement, au bout du chemin, un filet et des murs aussi, puisque ça se joue à l'intérieur. Donc, la balle tape contre les murs. Et au-dessus de ces murs, on crée des coursives. Les spectateurs se mettent là pour regarder. Il y a des maîtres paumiers qui sont de très, très haut niveau, donc ça crée du spectacle. Les femmes et les hommes y jouent de façon égale. Et par exemple, l'expression « épater la galerie », c'est une expression qui vient du jeu de paume. Il fallait épater la galerie parce que les gens étaient, les spectateurs étaient sur la galerie.
Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on est autant dans l'ancêtre du tennis que dans l'ancêtre du squash.
Ah, c'est vrai que le squash va revenir au mur. Et d'ailleurs, le paddle aussi réintroduit les murs. C'est comme si le jeu de paume ne cessait de surgir pour dire « n'oubliez pas, moi, on me joue avec un filet, une raquette et des murs ». Mais le tennis, donc ce qui se passe, c'est que donc tout le monde est très addict. C'est un sport qui, il n'y a pas que moi qui suis addict à l'époque, j'étais très addict aussi. C'est un sport qui crée une addiction. Et donc, il y a le duc Charles d'Orléans en 1415 qui va être prisonnier en Angleterre. Et qui, au château de Wingfield, et qui va apprendre à ses geôliers ce jeu. Parce qu'il a très envie d'y jouer, il veut pas arrêter de jouer au jeu de paume. Et c'est comme ça que le jeu de paume va arriver en Angleterre. Et c'est 3 siècles plus tard, en 1870, qu'un descendant du château de Wingfield, décide de ressortir pour jouer au jeu de paume. Sauf qu'il n'y a pas de mur dehors, donc il fait tondre la pelouse. Ça tombe bien parce que la tondeuse à gazon a été inventée 30 ans plus tôt. Donc il y a un objet pour tondre la pelouse. Et il met le filet dehors, il trace des lignes blanches sur l'herbe. Et avec la raquette, il joue, il invente un jeu en s'inspirant de ce bon vieux jeu de paume qui commence par tenez, donc tennis. Et le comptage est le même que celui du jeu de paume. Les règles sont très proches, sauf qu'il n'y a pas les murs, et ça va donner le tennis.
Et c'est ce qui explique aussi toutes ces bizarreries du tennis, comme pourquoi est-ce qu'on compte les points 15 en 15, ou tous ces mots étranges dont on n'arrive pas vraiment à savoir d'où ils viennent.
Eh bien, c'est vrai que moi, je pensais, je crois qu'on est nombreux à avoir fait cette erreur, que ça venait des Anglais, parce que on se dit, ouais, les Anglais, ils ont une façon de penser tellement bizarre que c'est un comptage dont eux seuls ont la clé. En fait, pas du tout, ça vient du jeu de paume. Ça vient de... Alors, on ne sait pas comment le jeu de paume s'est mis à compter comme ça. Mais c'était bien le haut jeu de paume qu'on comptait 15, 30, 40. Il y a plein d'hypothèses, et ça, je trouve ça très poétique, parce que, alors qu'il est, personne ne sait exactement d'où ça vient, parce que vous avez entendu que c'est finalement très ancien, ce jeu. Donc, il n'y a pas de traces, mais même Erasme essaie de parler, essaie de trouver d'où vient ce comptage. On s'accorde un peu à dire que ça vient de la paume provençale, dans laquelle il fallait, quand on gagnait un point, se reculer de 15 pieds, se reculer de 30 et de 40. Voilà. c'est probablement ça, mais il y a d'autres hypothèses, dont certaines hypothèses sont liées aux astres. Il y a des hypothèses très poétiques et ça fait débat, donc c'est assez joli à lire et à creuser. Moi, je suis pas historienne du sport, mais je pense que certains doivent se régaler avec cette énigme.
Les grassroots, comme ça que ça se prononce, les grassroots, avec ce titre de 1971, Temptation Eyes sur RTS Première. Vous écoutez Dis Pourquoi, nous sommes ensemble jusqu'à 15h, nous parlons tennis toute cette semaine. On vous a demandé au 078 206 73 32 si vous aimiez le tennis, si vous jouez au tennis, ou sinon, est-ce que vous avez un autre sport de raquette que vous aimez bien. On reçoit pas mal de messages, merci beaucoup. Pour moi, mon sport de raquette était le ping-pong. La raquette est moins lourde, ça c'est pas bête. Moins lourde et moins grande aussi, la raquette de ping-pong, ça se glisse presque dans une poche. Si on a des grosses poches, ça marche. Bonjour, mon expérience du tennis est la même que la vôtre, c'est-à-dire la mienne, c'est-à-dire que j'ai pas fait beaucoup de tennis, et peut-être que mes genoux me remercient maintenant. Voilà, et puis on avait un autre message, je trouve intéressant, c'est quelqu'un qui a jamais fait de tennis, mais qui par contre, voilà, c'est là. Je dirais aussi que mon sport préféré en raquette, c'est le ping-pong. J'ai pas mal joué quand j'étais petite. Par contre, le tennis, c'est vraiment pas mon truc. J'ai peut-être un problème de coordination. Mais j'apprécie beaucoup de regarder le tennis à la télévision. Mon grand-père était un grand fan, j'ai un peu hérité de sa passion. J'ai toujours beaucoup apprécié Stanislas Wawrinka qui a grandi dans le même canton que moi et qui est de la même année que moi. Je trouve qu'il a eu le mérite d'y croire et qu'il a beaucoup travaillé pour obtenir ses succès en grand chelem, notamment. Voilà. Oui, on verra, on va en parler de ça, je crois, après-demain, avec Muriel Magellan, notre experte de la semaine. Pourquoi est-ce qu'on connaît le nom des champions championnes de tennis et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui font pas du tennis, qui aiment suivre leur périple et pourquoi c'est un peu comme quand on regarde jamais du foot, puis d'un coup c'est la Coupe du Monde, on se met à regarder des matchs. Pourquoi ça marche? Que raconte un match de tennis? C'est fantastique. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Ben, les autres messages, on les lira plus tard parce que là, tout de suite, nous commettons une chronique.
Il nous manipule.
Et vous savez pourquoi?
Pourquoi pas?
Pourquoi?
Non, mais je peux pas, là.
Pourquoi?
T'inquiète pas, ici on pose des questions.
Faites répondre en te posant une question.
Toute cette semaine, donc, si vous suivez pas, nous parlons du tennis en long, en large et en revers. petit jeu de mots qu'on a mis là. Et comme nous explorons la thématique du tennis dans son ensemble, Nicole Fontana est allée chaque jour chercher un autre sport de raquette. Pour être sûr que les autres sports de raquette ne soient pas jaloux. Parce qu'après, s'ils sont jaloux, ils sont tristes. Et nous, on est tristes aussi. Et quand on est triste, on pleure. Et quand on pleure, ça nous rend tristes. Et donc aujourd'hui, nous éclairons avec bienveillance et amour un autre sport de raquette. Aujourd'hui, la pelote basque.
Le peuple basque est un peuple mystérieux, à l'origine inconnu. Il se devait d'avoir un jeu original et à part, la pelote.
Comme notre experte Muriel Magellan, pardon, c'est une archive de 1954 de Télé Genève, c'est le peuple basque mystérieux, on s'est dit qu'il fallait qu'on partage ça. Et donc notre experte l'a dit, le tennis dérive du jeu de paume. Hein, on en parle beaucoup du jeu de paume aujourd'hui. Mais il y a un sport qui a une filiation encore plus directe avec le jeu de paume, c'est bien la pelote basque. Comme l'a encore dit notre invité, le jeu de paume, c'est des nobles qui ont des petites raquettes ridicules et puis qui, avant la Révolution française, jouent pour épater la galerie. Mais ce n'est pas que cela. Si vous avez bien écouté, vous savez aussi que les gens du peuple jouaient un jeu avec une pelote et à main nue. Et, selon la tradition basque, les bergers basques pratiquaient sur leur lieu d'estive un jeu avec une pelote et à main nue, et ce qui s'appelait la botalouse, je pense que c'est très très mal prononcé. Et on a pu lire qu'à la Révolution française, le jeu de paume a décliné en France, mais pas au Pays basque, où le jeu de paume est resté vigoureux, et ça va devenir la pelote basque. Alors la pelote basque, c'est quoi exactement? Ce qui est affolant, c'est le nombre de variantes. C'est assez compliqué, en tout cas on va dire, pour rester poli, que c'est assez varié. La Fédération Internationale de Pelote Basque, la FIBP, qu'on salue, reconnaît 8 spécialités, tandis que la Fédération Française de Pelote Basque, la FPP, en reconnaît 11 en 2025. Et selon Wikipédia, il existe encore 8 variantes en plus. Donc on a pelote basque, mais en fait c'est une vingtaine de sports différents cachés derrière. Qu'est-ce qui est sûr? Qu'est-ce qui est le plus petit dénominateur commun? C'est qu'il y a un terrain, c'est qu'il y a un mur de frappe, qu'on appelle fronton, et puis qu'il y a une aire de jeu, et la balle doit rebondir sur le mur de frappe et l'aire de jeu, et puis les joueurs doivent renvoyer la pelote à la volée, ou après un rebond contre le mur. Voilà, après il y a plein de variantes de règles, puis ça se joue autant en salle qu'en plein air, il y a 3 types de terrains différents, on n'a rien compris, mais ce qu'on a compris c'est que cette balle, donc on peut la renvoyer à main nue, on peut la renvoyer avec une raquette en bois, on peut la renvoyer avec un gant en osier, on peut la renvoyer avec une raquette qui a des cordes, on peut la renvoyer avec un gant en cuir et on peut même la renvoyer avec un filet dans une variante. Et puis la Fédération Internationale de Pelote Basque compte 34 pays membres, hein, pratiquement tous les pays des deux continents américains. Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, presque tous. Quelques pays en Afrique, l'Inde, la Chine ou encore les Philippines. Et puis en écrivant cette chronique, on s'est dit « Tiens, mais oui, dans le générique de la série Miami Vice, à un moment, ils font de la pelote basque. C'est juste, et après, il y a des flamants roses et un riff de guitare. » Et finalement, un record, la variante de la pelote basque où on manie un grand gant en osier, eh bien, la pelote atteint les 300 km/h. Vous imaginez? Et c'est pas mou, une pelote. On a vu sur un site, il vaut mieux mettre des lunettes de protection. Ouais, il vaut mieux mettre des casques, je sais pas moi. 300 km/h, ce serait le sport de balle le plus rapide. Ça nous a étonnés. On va voir toute cette semaine s'il n'y a pas un sport de balle plus rapide que la pelote basque. Mais voilà, on a parlé jeu de paume, on parle tennis, on devait parler de la pelote basque.
Pour te plaire. Pour te plaire. trop chaud. Ce oui qu'on enterre à l'abri des mots pour te plaire.
Elencio avec le titre Pour te plaire. Notons qu'elle sera à Bulle au Francomania le 29 août, un soir où il y aura notamment aussi Roland Cristal. Vous écoutez Dis pourquoi, nous sommes ensemble jusqu'à 15h, encore une petite quinzaine de minutes ou une grosse dizaine, ça dépend le genre de personne que vous êtes, si vous voulez le verre à moitié nul ou à moitié chouette. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on parle d'un sujet passionnant, le tennis. Oui, c'est passionnant, parce que même si vous n'aimez pas le tennis, il y a la question de pourquoi est-ce que le tennis prend autant de place dans le paysage médiatique, pourquoi c'est un de ces sports qui est le plus regardé, notamment plein de choses à dire sur le tennis, quelle est la dramaturgie intrinsèque à cette activité sportive qu'est le tennis, ça nous verrons cela demain, et nous avons la femme de la situation puisque c'est Muriel Magellan qui nous sert de guide, elle a écrit ce livre Éloge du tennis, elle a aussi réalisé des films, scénarisé plein de choses, on la retrouve dans quelques secondes, mais avant cela, notre question 078 206 73 32, est-ce que vous faites du tennis? Très peu de tennisman, tenniswoman qui nous écoutent. Je crois zéro message de « oui, je fais du tennis ». Non, zéro. Par contre, un nombre de gens qui font du ping-pong, affolant. Donc la question du jour, c'est est-ce que vous faites du tennis? Sinon, quel est votre sport de raquette préféré? On savait qu'il y aurait des blagues, des facéties. Il y en a une qui revient, comme par exemple « mon sport de raquette préféré, c'est les raquettes à neige ». Et bien sûr, on accepte ce genre de message vraiment de... Ah, on l'accepte. Et puis, on a aussi demandé, parce que la pelote basque aurait le record de la balle qui va le plus vite, 300 km/h. On trouvait ça un peu étonnant. Puis, on a un auditeur facétieux qui nous dit « Non, le sport de balle le plus rapide, c'est le tir au pigeon. » Voilà, pas mieux, pas mieux. Ça se passe au 078 206 73 32. Plus sérieusement, non, allez, pas plus sérieusement, on a encore un message. Blague visuelle, quelle est la différence entre le tennis de table et le tennis? Au tennis, il joue sur la table. Voilà, fin de mes émoticônes balles de tennis. Nous retrouvons donc Muriel Magellan. Aujourd'hui, on fait un peu l'histoire du tennis, on essaie de comprendre comment ça se passe. On a donc le jeu de paume en France, traverse la Manche pour aller en Angleterre. En Angleterre, ça devient un sport à la fin du 19e siècle. Question suivante pour Muriel Magellan. Et à partir de là, ça a retraversé la Manche dans l'autre sens?
Voilà, il arrive à Dinard. C'est Dinard qui a le premier club de tennis en France. Je sais pas, quelques 10 ans après, ça va très vite, l'invention du tennis. Et là, ça se répand extrêmement vite. Il y a une mode, ce jeu plaît énormément. Et surtout, dans l'aristocratie, à tel point que, j'aime bien cet article de Maupassant, il y a un article de Maupassant dans une revue qui s'appelait Gilles Blas, dans laquelle il décrit l'odieuse raquette que tout le monde, alors je ne le cite pas littéralement, mais que tout le monde porte au bras, ou bien comme une guitare, ou bien pour frimer, en gros. Hein, cet article, il dénonce le tennis, qui était une mode. On a vu que c'était finalement bien plus qu'une mode. Le tournoi de Wimbledon, par exemple, il est mythique, parce que c'est le premier, finalement, hein. C'est le premier tournoi du Grand Chelem, mais c'est aussi le premier tournoi. Et on voit que c'est au-delà de la mode, parce que très vite, il y a une sorte de mythologie et de stratégie, de prise de conscience de la dimension presque théâtrale de ce sport, qui va jusque dans... Alors, si Maupassant n'aime pas, Proust, lui, par contre, il le pratique pas, mais... Il le glisse 13 fois dans la recherche, donc ça l'intrigue, tous ces joueurs élégants, parce qu'il y a quelque chose avec l'esthétisme aussi, au-delà de l'addiction. Il y a quelque chose avec la beauté qui intrigue beaucoup les écrivains. Et donc, pour revenir à la question, il se répand aussi aux États-Unis, à tel point que on va interdire aux jeunes des universités de jouer au tennis dans les 2-3 mois qui précèdent les examens, parce que ça devient une mode qui les dévore, quoi. Comme nous, quand on regardait Roland-Garros au moment de nos examens, eux, ils pratiquaient, il n'y avait pas la télé, mais ils pratiquaient trop, comme à l'époque du jeu de paume, qui se répandait dans les villes et les villages, voilà.
On parle tennis avec vous. Alors l'histoire, on a bien compris, c'est quoi, on est avant la Première Guerre mondiale quand ça se répand, et puis après la Seconde, oui. C'est tout à fait partout, on peut dire ça ?
Oui, tout à fait. Là, ça devient un sport tout simplement, parce que ça passe de loisir à sport. Donc ça se codifie vraiment. Alors les tournois amateurs ne sont pas dotés. Et c'est pourtant à l'époque, c'est l'ère avant l'ère open, là maintenant on est dans l'ère open, mais l'ère amateur, on va l'appeler comme ça, certains l'appellent comme ça. Comme c'était un sport très pratiqué par l'aristocratie, les tournois n'étaient pas dotés d'argent, ils étaient dotés de cadeaux. Et c'était la compétition amateur qui faisait référence. C'est-à-dire si on était le meilleur joueur, on était le meilleur joueur en amateur. Et quand on quittait la compétition amateur, on pouvait faire des démonstrations qui, elles, étaient rémunérées. Mais elles ne valaient pas, ça ressemble un peu à la boxe, en fait. Hein.
Ou au patinage artistique, je me dis aussi.
Oui, au patinage artistique, exactement. Voilà. Ça ne vaut pas pour la compétition. Et ça, ça a duré jusqu'en 1968. Et là, on a ouvert l'ère open, parce que ce qui était dommage, c'est que tous les joueurs issus de milieux populaires, ils commençaient à en arriver de plus en plus, passer directement professionnel, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire carrière en amateur, vous voyez, puisqu'il n'y avait pas d'argent. Donc, ils se dépêchaient de quitter la compétition amateur pour devenir professionnel, et ça faussait un peu les records et la rivalité. Donc, on a créé l'ère open dans laquelle on est aujourd'hui. Et vous entendrez peut-être des fois le meilleur record de l'ère open, ça veut dire depuis 1968. C'est très compliqué de bien vivre du tennis. C'est une des étrangetés de ce sport pourtant très regardé dans le monde. C'est que, au-delà de la 100e place mondiale, ça commence à être difficile de gagner sa vie. Alors, c'est un peu moins vrai à l'heure où je vous parle, parce que la fédération, depuis pas très longtemps, je crois un an ou deux, a décidé d'aider les 250 meilleurs joueurs du monde. Donc ça a fait reculer un peu la précarisation des professionnels, parce que c'est un sport qui demande de se déplacer énormément, et il faut se loger, donc ça coûte cher, et parfois on perd au premier tour. Donc si on perd au premier tour, on repart direct, et on n'a rien gagné. Donc c'est en ça que c'est précaire. Finalement, jusqu'à la 250e place maintenant, ça commence à être correct, sachant que les 100 premiers, eux, gagnent très bien leur vie. Ça, c'est un vrai gap. Et puis, on compte les professionnels avec les points ATP. Donc, on va dire sur les 1000, 1500 meilleurs joueurs du monde. Et en France, je pense qu'on doit avoir une centaine de joueurs qui sont dans les 1000, 1500.
Et toute dernière question, cette fois pour de vrai. Les grandes nations du tennis dans l'histoire, qu'est-ce qu'on peut citer ?
Alors, les grandes nations, il y en a beaucoup. Hein. J'ai essayé de réfléchir un peu à ça. Bien sûr, la France quand même, hein, puisqu'on a eu les mousquetaires qui ont marqué l'histoire du début du tennis, de l'ère amateur. Les États-Unis, bien sûr, avec la période McEnroe, Connors, Agassi, voilà, ont eu leur grand champion. Mais il y a aussi des pays de... Par exemple, des pays de l'Est, hein, qui, comme la Tchéquie, qui ont des champions. L'Argentine, maintenant, a des champions. Le continent qui est assez... il y a beaucoup de pays. L'Espagne, bien sûr. Là, il y en a énormément dans les 100 meilleurs joueurs du monde. L'Angleterre, maintenant. Franchement, c'est assez varié. Je pense qu'on peut plus observer l'absence du continent africain. C'est là qu'il y a, à mon avis, des champions en sommeil... et que le tennis, j'espère en tout cas, accueillera de plus en plus de joueurs africains, et ça pourra amener une autre énergie dans ce sport. Mais pour l'instant, c'est peu.
Dis, pourquoi ?
Billie Eilish avec le titre Birds of a Feather. C'est comme ça que ça se prononce.
Slipping by, oh, away from me. And oh, she caught my eye through the light. Then she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. We could dance in the morning light. Let's forget about our worries in the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said,
les émissions de la journée pour accompagner vos nuits. RTS Première, il est 1h.